Débuter par une lecture que nous avons préparée avec notre comédien Raphaël France Kuhlmann. Oui. Et la première lecture est celle du roman d'Alice Renard. Dans La colère et l'envie, on rencontre Igor, une petite fille différente, hors norme. Tout le monde la regarde et s'interroge. Son père, sa mère, les médecins. Ils essaient tous de lire, de comprendre et de déchiffrer cet enfant qui bouscule les habitudes. Il faudra une rencontre, celle de Lucien, le voisin septuagénaire, du temps et de l'amour, pour permettre à Isor de se révéler malgré les inquiétudes et les interdits que doit affronter un être qui rentre dans aucune case.
Dans tes tresses, au soir des jours de printemps, on retrouve toujours des choses inattendues. Quand tu as passé de longues heures dehors et que tu reviens, que tu t'assois sur le petit tabouret de notre chambre pour que je te brosse, quand mes doigts défont les tresses faites par eux le matin, il y a toujours entre les mèches de petits trésors du pollen, des pétales de pissenlit, des bouts d'écorce, des brins d'herbe et même quelquefois un petit perce-oreille. Dis-moi, ma petite fille, comment fais-tu pour récolter tout cela? Pourquoi ces choses s'attachent-elles ainsi à toi quand tu vagabondes? C'est au cœur même des boucles qu'on les retrouve, enfoncées entre tes cheveux noirs. Au début, j'avais peur. Maintenant, j'en rigole. Et je te montre ces trouvailles pour que tu répondes à mes rires. Toi, toujours, tu me rends un sourire, comme si tout cela était naturel. Et parfois même, tu rougis comme si... Par là, tu voulais me donner à voir un bout de ton intimité, pourtant si difficile à atteindre.
Marcel danse, un rythme entremêlé qui ne la quitte plus. Chaque mouvement est à sa juste place dans une harmonie subjugante. Ce n'est ni une valse, ni un tango, ni du jazz, ni un foxtrot, c'est tout son corps qui devient la musique qu'elle a dans la tête. Et quelle musique ce doit être ? C'est comme tous les rythmes africains à la fois, battus sur tous les tambours du monde, qui la déchirent en tous sens selon une arithmétique indéniable mais terrible. Chaque membre vibre, avec tantôt une énergie distincte, tantôt un même élan. C'est comme les 8 bras des pieuvres, chacun son cerveau, mais coordonné certaines fois par la tête quand une même nécessité les rassemble. Tout peut changer d'une seconde à l'autre, et 2 minutes consécutives ne se ressemblent jamais. Mais à force de la regarder faire, j'ai fini par percevoir que chaque danse tend irrésistiblement vers un bercement. Aucune ne dure plus d'une heure. Et déjà, toujours à mi-chemin, quelque chose commence à poindre. C'est une couleur qui monte à l'horizon, qui enfle avec douceur. Les gestes deviennent fluides, comme récités. La danse est alors pratiquement une prière qu'elle aurait eu en elle depuis longtemps, qu'elle aurait eu le temps de méditer, de mâcher et qui finit par sortir. Le tout se termine en une régularité lancinante et majestueuse, comme si elle avait dansé sur de la musique classique. Puis son petit corps s'arrête de bouger et s'allonge sur le tapis, immobile. Le sourire relève.
Isor a toujours refusé d'apprendre, d'aussi loin que nous en avons de souvenirs. Elle n'a pas voulu apprendre à parler, elle n'a pas voulu apprendre nos noms, jamais nous sourions depuis son berceau comme les autres enfants. Elle ne s'est écriée tout en joie, papa ou maman. Jamais un mot, aussi petit soit-il, qui ait du sens ou qui nous soit adressé. Elle a refusé d'apprendre à manger autrement qu'avec les mains. Elle a refusé d'apprendre le dessin, la musique, l'équitation ou quoi que ce soit d'autre. Jamais nous n'avons songé pouvoir la noyer à l'école. Et les médecins étaient bien forcés d'être du même avis. Quand, à ses 4 ans, nous avons entrepris de lui donner quelques leçons à la maison, sitôt qu'on lui a mis un cahier sur la table basse et un stylo dans la main, faisant le geste à côté d'elle, de tracer son prénom, soit elle éclatait de rire, un rire souverain, semblant nous dire « tout ceci est parfaitement ridicule ». Soit elle entrait dans une colère noire, comme l'orage qui mettait des heures à retomber, soit encore elle se levait et partait, comme si rien n'était arrivé, ou qu'elle n'avait pas même compris ce que nous attendions d'elle. Alors, à son âge, à ses 13 ans, que sait-elle? Rien qui vaille. Elle ne sait pas que la Terre est ronde, elle ne sait pas ce qu'est un adjectif, elle ne sait pas comment on compte les heures, elle ne sait pas ce que c'est qu'un père, ni que la génétique, normalement, nous rassemble. Souvent, j'y pense, je me demande comment elle fait pour vivre sans rien, dans un monde qui doit lui sembler tellement aléatoire ou absurde. Moi, j'étais persuadé que c'était cela qui la mettait en colère, de ne rien comprendre. Mais elle ne fait aucun effort pour saisir quoi que ce soit.
Petit florilège de ce qu'on a pu nous dire. Sophie Plain, psychologue.
J'ai un ami qui fait actuellement un film sur les enfants sauvages. Vous savez, comme celui de Truffaut. Est-ce que vous accepteriez qu'on filme votre fille ?
Docteur Sylvain Lecouly, gastro-entérologue.
C'est parce qu'elle digère mal le lait.
Docteur Mélanie Marchand, addictologue.
Monsieur, ici vous êtes dans une structure de confiance où vous êtes protégé par le secret médical. Pour le bien de votre fille, dites-moi, votre épouse a-t-elle consommé des substances illicites pendant sa grossesse ?
Guy Dufour, orthophoniste.
Je connais un institut qui propose du yoga pour nourrissons et enfants en bas âge. Pourquoi ne pas l'y inscrire ?
Alexandre Petit, interne ORL.
L'hypothèse d'un syndrome rare touchant les canaux lacrymaux n'est pas exclue. Votre fille secréterait trop de larmes. On a relevé un cas similaire en Birmanie il y a 2 ans.
Mon frère,
c'est le climat de Paris, Camillo. C'est du sud que nous venons, nous, de Campanie. Elle a le sang chaud, ta fille, c'est tout. Je te le dis, reviens vivre ici, elle se sentira mieux. C'est comme la tante Lolina qui faisait des syncopes dès qu'elle passait Naples. Je le sais, moi. Ça, ce sont les douleurs de l'exil.
Docteur Arthur Legendre, neurologue.
L'IRM est normal, monsieur. Sans vouloir sortir de mes compétences professionnelles, il me semble que Dieu éprouve parfois les siens. C'est par le chemin de la peine que nous est finalement accordée la vraie joie.
Docteur Amandine Blanc, psychiatre.
Partez donc un peu en vacances. Prenez du temps pour vous. Cela devient urgent. Isor a besoin de voir sa famille unie et heureuse. On continue de se voir tous les 2 jours.
Sandrine Kowalski, notre ancienne femme de ménage.
Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous savez, je crois que c'est le mauvais œil. J'ai une petite nièce en Pologne, dans le même cas, parce que sa mère a accouché pendant une éclipse.
Un matin, Trousseau a mandaté une assistante sociale pour s'assurer que nous vivions dans un environnement approprié et sain. C'est ce jour-là, Isor venait d'avoir 6 ans, que Maud et moi avons décidé de tout arrêter. À partir de là, nous avons décidé de ne compter que sur nous-mêmes.
Mon Isor. Assurément, ton nom était pour toi, un nom émaillé de vaillance ancienne, patiné de sagesse disparue. Mon Isor, tu ne peux pas savoir comme j'avais peur. Cela faisait une petite éternité que plus personne n'était entré dans ma vie, que je faisais en sorte que plus personne n'y entre. Toi, tu as tout de suite voulu que l'on se rencontre. Ma vieillesse, ma réclusion, ma tristesse, j'ai d'abord cru que tu ne les respectais pas. Elles n'étaient rien pour toi, que tu t'en fichais et que tu agissais avec moi comme avec n'importe qui. Je me trompais. Tu as accepté tout de suite, sans m'en vouloir, sans les questionner, mon chagrin, mes vieux os, ma lenteur et tout le reste. Mais ta manière à toi d'avoir peur était de te précipiter. Tu sautes à pieds joints pour que ce qui doit arriver, arrive, et le plus vite possible. Moi, je suis plutôt de ceux qui font durer les choses jusqu'à ce qu'elles se délaient. Un homme de mon âge, rien ne peut plus lui arriver, me disais-je. Je n'ai plus la force, c'était mon privilège qu'il n'y ait plus rien à faire. Mais vois-tu, je me trompais. À 76 ans, j'avais encore Isor à rencontrer.
Ce matin, très tôt, alors que j'étais encore dans cet état, à vrai dire, plus proche du coma que du sommeil, Camillo est venu me secouer par les 2 épaules. Il n'était plus du tout stoïque. Il me faisait un regard ahuri, comme s'il venait de comprendre quelque chose de terrible et que tout son monde était sur le point de chavirer. D'ordinaire, c'est moi qui ai le monopole du drame. Je me dis que l'émotion de la disparition le touche enfin et je veux le serrer dans mes bras pour qu'il partage son séisme avec moi et que je me sente enfin moins seule dans le mien.
Il résiste, il se recule, il me dit, c'est entre l'ébahissement et la...
Gisland nous a écrit.
Oui, oui, c'est toi qui as gardé la lettre d'ailleurs, n'est-ce pas?
Non, tu ne comprends pas. Isor nous a écrit.
Je percute, nous percutons. C'est tellement monumental que nous ne l'avions pas vu. Et mon visage à moi aussi se met à se distordre, comme la carcasse en accordéon d'une voiture accidentée.
Isor sait écrire.
Et voilà que la catastrophe redouble. Comme si déjà ça ne suffisait pas, c'est plus seulement Isor est parti. Mais Isor nous a écrit qu'elle partait. Bientôt 16 ans, qu'elle nous abreuve de ses mensonges. 16. Elle aurait donc choisi de vivre avec nous tout ce temps, comme avec des ennemis que l'on doit à qui l'on doit mentir. Ébranlement, cataclysme, renversement, désastre, tremblement, épreuve, mépris, trahison, mensonge, malédiction, trahison, trahison, traîtrise, sacrifice, perfidie, manipulation, mensonge, hypocrisie, manipulation, manipulation. Les mots s'agglutinent dans ma tête depuis mon réveil. Mais aucun n'a pleinement le courage de se poser sur la situation, de la tirer au clair une bonne fois pour toutes. C'est ça la malédiction d'Isor. Ne rien pouvoir tirer au clair, prendre un fusil, viser la cible, tirer au clair, tirer bien droit, atteindre le mille. Et que tout ça ait un sens fixé. Fiché pour toujours qu'on n'en parle plus. Les mots du médecin. Elle ne veut pas. Elle pourrait. Elle ne veut pas. Elle pourrait. Est-ce qu'elle se marre, là? Est-ce qu'elle se marre?
Pape, maman, ça y est. Je suis lointaine. C'est fait. Mais pleure pas. Bientôt, je reviens. Bientôt, je retourne. Et nous sommes ensemble. Mais maintenant, je vais pour Lucien. Faut pas le disputer, il sait même pas. C'est moi qui décide seule. Quelque chose devait être fait par moi, pour lui. Quelque chose d'un peu grave, parce qu'il meurt bientôt, tu sais. Grave, c'est pas difficile. Grave, c'est important. Pour nous, ça importe. Faut pas mourir amer. La mort, ça doit venir comme un nuage. Tout doux, pianissimo. Moi, je verse le sucre sur la plaie et je reviens. Je t'embrasse, pape, mam et Luce. Bisous du cœur.
Vous les deux. Je respire. Je suis libre. Je marche sur les chemins noirs. Le monde est à moi. Je suis libre. Comment il va, Lucien? Dis-lui que tout ira bien, de lui comme de nous. J'affronterai son désastre pour lui. Je rencontre la nuit. À Bercy, j'essaye, pour pas que tu t'effraies, de rentrer tôt. Et puis c'est des nuits de la ville, des nuits qui n'en sont pas, des nuits où s'agroupent les gens qui ont peur des nuits. Ici, pas de fuite. Je regarde les couchers du soleil pour ce que je veux voir la nuit qui arrive avec les siennes facéties et lenteurs. À cette heure-là, il y a quelque chose fait pour moi, à ma taille. Pour la première fois, j'ai plus d'air que j'en boirais. J'avais des murs dans la tête, des murs partout, partout, partout. Les articulations qui grippent, le sentiment entre les œillères. Ne pas oser s'élancer à la lutte, à la conquête. Mais maintenant, me suis mise à table du soleil et veux rencontrer les hommes et les femmes qui ont du turquoise plein les poumons et franchir les barbelés de l'asphyxie. Et je vis ce que je suis née. Je suis grande aujourd'hui. Reviendrai vite pour aboutir les promesses. Bis, 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 t'en fais pas, je vis le beau temps.
Camillo, Maude, vous les deux. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Je suis heureuse comme l'éclair se décharge sur les pins parasols. J'ai Agnella contre le cœur. Il faut que te dise, je crois que c'est mieux pour toi à savoir. C'est Agnella que je viens trouver. Je suis arrivée ce matin à la petite aube au bout de la clôture. Elle a entendu le grincement du portail, alors est sortie. Nous sommes vus, le ciel mauve au-dessus de nos épaules, Les mains humides de lait, elle traite les brebis, là derrière. Nous nous gardons et regardons. Il fait silence. Annie comprend que je suis l'importance, que je viens pour quelque chose long et urgent. Je montre la photo de son père. Je dis, je serai l'ambassadrice de lui auprès de toi. Je serai le temps perdu. Je serai le pardon que vous n'avez pas pu se dire. Je serai l'étreinte manquée, la connivence. Lucien, il va mourir heureux. Lucien, il m'a donné le monde. Il m'a dit, avec ma colère et mon envie, je saurai vivre. Toi et toi, tu as peur, le sait. Lucien, lui, c'est ma confiance. Dit qu'avec la colère et l'envie, on vit peut-être mieux que les autres.
Nous avons entendu Loïc, Olivia, Michel, Anne-Marie et Robert. Nous allons maintenant écouter des extraits des Ciels furieux, le roman d'Angélique Villeneuve. C'est l'histoire de Émy, petite fille de 8 ans qui vit dans un village juif d'Europe centrale avec toute sa famille. Le roman ne dit ni où ni quand, mais on comprend vite que c'est une période sombre, celle des pogroms qui ont lieu à partir de la fin du 19e siècle en Europe de l'Est. On ne lâche pas Émy de tout le roman. Perception et souvenirs s'entremêlent. C'est le regard d'un cœur pur qui tente de comprendre l'intrusion de la violence dans son univers tissé d'imaginaire.
Est-ce que ça va? On est proche.
Au moment précis où, enfin, Émy s'apprête à s'enfuir au dehors dans la neige, c'est le plus grand, le plus maigre des hommes entrés dans la maison qui arrache le dernier bébé du sein de Pessia et le soulève au-dessus de lui. Le cri qui monte avec l'enfant emplit l'air de faisceaux, de fumée, de roches explosives. Puis on entend un bruit, comme un coup. Et voilà qu'apparaissent en nuée les chansons dont Annie a bercé le bébé. Voilà les noms inventés tant de fois murmurés en secret. Ils flottent autour de l'étagère athée, tous, et avec eux les baisers longs posés sur les paupières, les bras tendus, les tapotis de réconfort, les fouissements chauds au creux des poings minuscules refroidis par les courants d'air. À mesure qu'elle les avait donnés, ils s'étaient donc blottis dans la poitrine et sous les cheveux de l'enfant, tel un duvet posé sur un autre et sur un autre encore, jusqu'à bâtir le corps doux d'un oiseau à l'intérieur de lui.
Elle a 5 ans, lorsque son père lui fabrique un tabouret à sa taille. Assise ou perchée dessus, les pieds écartés et le corps grandi d'impatience, elle fait les lits, elle fait la poussière, elle frotte le chaudron où Zelda, tout à l'heure, cuira le bouillon gras de poulet. Elle tamise la farine, coupe en tranches les radis, les concombres et les échalotes. Elle fait tremper le plat de terre dans lequel a rôti le klops. Elle s'occupe des poules, dont la noire est sa préférée à cause de sa drôle de démarche. Elle étend les petites pièces de linge, elle traque les accros, les ourlets vaincus, les boutons perdus. Et après le déjeuner, elle tue les mouches qui tremblent aux fenêtres. Elle est très forte pour les mouches. Une fois, sa main a bondi, elle en a attrapé une qui s'obstinait à l'angle du carreau. Puis sans réfléchir, elle l'a gobée. Avant qu'elle l'avale, ça pesait dans sa bouche comme un oiseau lâché. Le frère aîné aurait raillé la croqueuse de mouche, à coup sûr, s'il avait été témoin de la scène. Lève ne perd pas une occasion. De toute la famille, il est d'ailleurs le seul à ricaner, à épier, lui qui ne fait rien de son temps et traîne dehors avec n'importe qui.
Si elle était déjà jeune fille, le père exigerait sans doute l'excellence. Mais Ni n'a que 5 ans, alors il lui passe tout. Les pères, paraît-il, doivent faire en sorte d'être craints par l'assemble de leurs enfants. Mais Harry Sapojnik n'a pas réussi à obéir au rabbin. On voit qu'il essaie, mais n'essaie pas vraiment. Ou alors pas longtemps, surtout avec ses filles, surtout avec Annie. Ici, personne ne la force, ne la gronde. Personne ne craint le père. Quand on s'y prend de travers, il penche la tête en souriant, d'un air attristé et confiant. Jamais il ne lèverait la main. « Ce n'est pas mon système », il dit dans sa moustache, quand il croit que personne ne l'entend.
Quand Annie atteint l'âge de 8 ans, Zelda ne l'a pas attendue. Elle en a déjà 11 et depuis un bout de temps, on ne la rattrapera jamais. Les cheveux de l'aînée sont longs jusqu'au milieu du dos, mousseux et doux. Leurs pointes ont roussi aux lumières des étés, tandis que ceux d'Annie sont très bruns et coupés tout au court, en forme de champignons. Ils s'en mêlent facilement. Annie râle en étendant le peigne, bientôt les larmes aux yeux. Alors, presque toujours, Zelda apparaît. Elle claque de la langue et déploie l'édredon de ses bras, de son cou. Dedans, on est l'un des bébés aux paupières fermées. Le peigne s'échappe des doigts ouverts. Il tombe, mais on ne l'entend pas. Rien n'a plus d'importance. Ce qu'on est devenu alors dans les bras de Zelda est impossible à dire.
Et puis, à 8 ans passés, en plus de la cuisine et de la couture, il y a du nouveau pour les filles, les bébés. Si Zelda a déjà Youssif et Kolia, le jour d'Annie est arrivé. À son tour, enfin, de posséder quelque chose de vivant. Au début de l'hiver, la mère a fabriqué pour elle un garçon minuscule. Il s'appelle Avrom. Ses yeux sont clairs comme l'eau. Une paire de bébés pour la grande Zelda, un premier pour Annie. C'est le système. Les nouveau-nés dorment peu, jamais quand on veut, et ils demandent beaucoup. Ils ont faim, et pas seulement de bouillie et de lait. La faim de savoir, dit le père, est précieuse.
Pour les soins du nouveau bébé, Zelda montre les gestes, analyse à haute voix les mimiques, distingue les cris qui sont des mots de ceux qui n'éclairent que pour fatiguer, énerver la maison entière. Et Annie la regarde faire depuis des années. Elle aide, elle apprend. Cette fois, ce sera pour de vrai. Ce sont ses bras, ses mains, son jugement propre que la famille attend maintenant de voir en action. Elle se sent prête. D'ailleurs, elle a un don pour ça. Elle le sait, elle le dit, et Zelda est d'accord. Le garçon qui est son bébé est à elle. Aussi sûr que Kolia et Ossip sont à la sœur aînée.
À 8 ans toujours, disons 2 longues saisons après 8 ans pour Amy et 12 ans tout juste pour Zelda, à l'intérieur de la maison, quelque chose se produit. C'est la fin de l'hiver. Dehors, les champs, les toits, les arbres et les chemins sont couverts d'une mince couche de neige presque bleue. Amy ne sait pas pourquoi, mais le père est inquiet. Elle l'a senti et la crainte n'a pas tardé à fondre sur elle à son tour. Cette peur affamée aura bientôt avalé toute la maisonnée.
Il y a alors un grand bruit du côté de la porte.
Un grand froid.
Plusieurs vitres tombent comme la glace qui finit par céder à la lisière du toit. Mais pas vraiment pareil. Des hommes, on ne sait pas qui ni combien, tant ils semblent pressés, envahissent la pièce.
Et les chevaux furieux.
À leurs pieds, ils apportent la boue que fait la neige fondue, triste et molle sur le bois du plancher. Et il renverse tout.
La machine à coudre.
La marmite.
Les plats.
La théière.
La bonne lampe qui brûlait sans jamais fumer. Ils cassent, ils arrachent ce qui tenait à cœur dans un fracas épouvantable. Ils sont
l'orage annoncé.
Le père crie.
La mère s'est levée brusquement. Elle tient Avrom contre son sein. Sa peau est blanche, sa broche verte. Amy aperçoit dans sa bouche une rangée de dents très luisantes. Le premier, Lev, s'est enfui par la porte à l'arrière. À croire qu'il savait à l'avance.
Le père crie de plus en plus fort.
Sa voix enfle, pareille à celle d'une aïeule édentée qui ne serait pas grand-mère. Amy s'efforce de comprendre ce qu'il dit.
Mais il n'y a pas de mots.
Il n'y a que cette voix affolante et qu'on ne connaît pas. Le samovar s'effondre, les mots apparaissent. Il supplie.
Sortez, partez, courez,
dit la voix. Et on dirait que le père envahi de cette voix devient fou.
Ils commencent par reprendre leur souffle. Les filles ensemble et le garçon plus loin. Ça dure longtemps. On ne sait si dans la bouche de Lev, c'est l'air qui siffle ou bien des sanglots. Il leur tourne le dos, parfois se plie en deux. Ça n'est pas le Lev qu'on connaît, mais on a l'impression de ne plus rien connaître. Ensuite, il ne se passe rien. Ils attendent sans savoir quoi. L'air est saturé d'une fumée différente de celle de la maison, intense, plus ronde et plus sèche. « On va dormir ici, » dit Zelda, au bout d'un moment, qui semble une minute et une heure. Lev marche le long des murs, comme pour inspecter ou chercher une issue. Ses bottes font là de gros pas noirs. Il faut se coucher. Dehors, la lune est presque entière, brillante et blanche. On la voit à travers une vitre essayer d'éclairer l'intérieur de la briqueterie pour les aider à y être ensemble, abrités. Le raclement de cris d'oiseaux en retard sur le jour se mélange à leur bruit à eux. Ils sont comme des scies entrant dans le bois. Un animal traverse la largeur du toit, un rat des neiges pourvu de 8 ou 10 pattes au moins. Ils piaulent pour dire quelque chose, pour le leur dire à eux. Et eux trois écoutent au-dessous sans pouvoir déchiffrer le moindre mot de sa langue de rat. Là, dans ce coin, finit par dire la voix de Zelda. Amy veut aussitôt se blottir dans ses bras, la serrer, se serrer les deux comme elles font toujours, mais avec douceur. Zelda la repousse, elle lui souffle. Non, maintenant on s'allonge près du mur. Mets-toi là de tout ton long, et je me mettrai au devant, tout contre. On trouvera la chaleur, allez. Amy dit ah, elle ne comprend pas. Allez, reprend Zelda au creux de son oreille. On sera 2 cuillères rangées. L'une dans l'autre.
Zelda avait décidé d'apprendre à sa sœur ce qu'elle savait sur les doigts. La manière qu'on a de les détailler, par exemple, mais aussi quelques jeux savants pour aider à compter jusqu'à 5, 10 et 12, ou même jusqu'à 60, qui sont des nombres plus utiles qu'on croit pour mesurer l'écoulement du temps, ou pour la prière, la couture et les recettes de cuisine.
Un doigt, une personne, avait-elle chuchoté. Exaltée, en ouvrant ses paumes devant elle, la nuit qui avait suivi la déclaration du père à propos d'Avrom. Il était son bébé. À chaque membre de la famille serait attribué un doigt. Quel était le système qu'elle venait d'inventer? Pour commencer, elle avait compté. Le résultat était qu'une main ne suffirait pas à caser, ne serait-ce que les 6 enfants Sapochnik. Elle choisit pour eux la main droite, car elle était droitière. Avrom venait de voir le jour. Il était assurément le plus jeune et le plus précieux. Il se rangerait sur le côté. Le petit doigt, à l'ongle rond, poli, généralement propre, lui irait à merveille. Elle l'embrassa. Elle hésita à céder à Lève, le grand du milieu, car il y a plusieurs manières d'être grand, et Lève optait trop souvent pour la plus mauvaise. Écarté, il fut décidé qu'il serait le seul de la troupe basculé de l'autre côté. Yossif, Kolia, Zelda et elle-même prendraient les places vacantes à droite. La mère se glisserait à l'intérieur du pouce gauche, enflé, douloureux, il était sûrement triste, et le doigt du milieu figurerait naturellement le père. Presque à regret, une place fut accordée à la grand-mère morte, mais rien ne fut prévu pour d'autres grands-parents, car de cela, on ne sait presque rien. Il est dangereux de penser au grand-père ou à la mère de leur mère à cause des choses qui leur sont arrivées il y a terriblement longtemps, dit Zelda. À la maison, malgré l'appétit qu'on aurait de savoir, nul n'en parle jamais. Les démons sont là, qui écoutent, rêvant de faire revivre les malheurs passés si, à voix haute, on en ravivait le souvenir.
Dans la briqueterie, elle fait revenir la mousse ronde sous son épaule et sous sa hanche douloureuse. Elle aspire l'odeur des cheveux de Zelda, la tiédeur du dos et des jambes qui sont données contre elle. Elle aspire de toutes ses forces en clignant des yeux, car ici il n'y a aucun refuge à la bordure dorée, aucune histoire, aucune étoile, aucun ciel. Et puis si, car tout à coup enfin,
le rat.
Cette fois c'est lui, on en reconnaît le tempo, les allées et venues déjà coutumières. Le rat grignote son dîner, puis détale, effrayé, avant de revenir se poster exactement à la même place, juste au-dessus des nids. Elle se dit, c'est gentil.
C'est un gentil rat. Elle l'imagine avec d'autres de son espèce occupés à tracer leur chemin à travers la neige sur le toit.
Et ce sont des routes qui, sous ses yeux, se déploient soudain. Une éclosion de croisements,
de ruelles tordues, bordées de maisons aux toits pointus et d'entrepôts de bois.
C'est ici un établissement de bains rituels.
Une salle d'études où des rongeurs pieux et savants de tous âges psalmodient en se balançant d'avant en arrière.
Autour de la place du marché,
une épicerie,
une quincaillerie,
une boucherie.
Et en miniature, la copie parfaite de la confiserie autour de laquelle on tourne les jours de marché. Une auberge, puis les échoppes du tailleur et du casquetier.
C'est en retrait de la belle maison à perron du dentiste,
les rats ont de si vilaines dents,
qu'une mercerie plus riche encore que celle de Cheim le Beg apparaît.
Pour les branches versant sur le toit,
quoi, des chariots lourds de grains,
de crème aigre et de mottes de beurre de la taille de son ongle,
ruissellent des arbres qui bordent l'un des flancs de la briqueterie,
comme d'infinies colonies de scarabées jaunes. La grande église des mulots des paysans a bien 2 clochers de hauteurs inégales, tandis que la vieille, la moyenne et la nouvelle synagogue se sont installées pas très loin.
Le rat Bedeau frappe de son marteau de bois sur un volet pour rappeler l'heure de la prière.
La pompe à eau, comme trop souvent ici aussi, est encore inutilisable.
Elle voit une poule, une paire de toutes petites chèvres, agacées de mouches grosses comme des têtes d'épingles, une tourterelle assoupie dans une cage.
Un panier de cerises.
Elle voit les routes s'échapper du shtetla et s'enfoncer entre les forêts et les prés.
Tout cela, minuscule et blanc, muet, pour ne pas faire de bruit.
Et si la couche de neige retombée dans la nuit est assez épaisse, les rats auront creusé là-dessous une ville de secrets, comme on dirait une ville de pierre ou de bois. Du ciel, alors rien n'en transparaîtrait. Plus une trace se dit,
plus j'ai une trace de leur vie de rat. Pourquoi n'avoir pas emporté au moment de partir hier soir un morceau de pain ou l'un des 3 pâtés de viande qui restaient malheureux dans un coin? Pourquoi a-t-elle été si bête? Pourquoi? Elle envie grand-mère un instant, qui est morte et ne pense plus jamais à la nourriture. C'est qu'elle a tellement faim. vraiment, vraiment très fin. Elle salive sur sa langue et ses mains collantes enfin, jusqu'à chacun de ses doigts glacés, même celui qui n'a pas de nom. Elle visualise les crêplards parfaits de pourrine, le tsim aux carottes sucrées, l'épaisse confiture de quetsch presque noire apportée un jour par Macha. Elle pense à l'excitation du repas du céder. En quoi cette nuit diffère-t-elle de toutes les autres nuits ? Demandera rituellement Lev au père le soir de la Pâque.
Elle songe à leur dernier repas pris ensemble. Ils sont repus. La cuillère tape contre le bord de la marmite pour qu'il dégringole les derniers lambeaux de légumes. Elle ne sait plus qui tient la cuillère. Elle sent monter l'odeur du chou. Son père récite machinalement les actions de grâce. Sa mère machine encore. Lev a les yeux et les doigts brillants. Zelda tient Kolia bien éveillée sur ses genoux. Elle fronce les sourcils. Qu'est-ce que la nuit leur a fait, à eux tous ? En quoi cette nuit diffère-t-elle de toutes les autres nuits ? À cette question, il n'y a cette fois aucune réponse connue à l'avance.
Merci à Jennifer, Françoise, Alphonsine. Une fois que nous avons installé la scène, nous allons profiter avec nos auteurs d'un petit instant de partage. Et si vous le souhaitez, à l'issue de cet entretien, il y a la table du libraire de l'Arbousier où vous pourrez faire dédicacer vos livres. Et puis bien sûr, nous vous offrons, comme d'habitude, un petit apéritif afin de pouvoir continuer des entretiens autour d'un verre.
Thank you. attention. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alice, nous vous recevons donc aujourd'hui pour parler de votre premier roman, La colère et l'envie, aux éditions Héloïse d'Ormesson, et pour lequel vous connaissez un accueil très favorable. Alors je m'y perds un peu, vous avez reçu le prix Méduse, qui récompense la jeunesse, l'originalité et le talent, le prix littéraire de la vocation, et vous êtes sur la présélection du prix Fémina. Tout est bon. Angélique, et nous remercions d'ailleurs les correspondants pour ça, nous avons eu le plaisir de vous recevoir une première fois en 2020 pour La Belle Lumière.
C'est un très très bon souvenir d'être avec vous ici il y a 3 ans, oui, pour La Belle Lumière.
Oui. Souvenir partagé, et c'est vrai que là, c'est ce que les correspondants permettent, c'est de suivre un auteur qu'on aime, donc... On est vraiment enchantés et enchantés d'avoir pu lire vos livres à toutes les deux. Est-ce que cette écoute, enfin c'est spécial, émouvant?
Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup celles et ceux qui ont lu mon texte, le comédien qui a préparé ça, vous aussi. J'étais très, très émue, très, très heureuse. J'ai eu les larmes aux yeux plein de fois. Je vous remercie beaucoup. C'est un immense plaisir de sentir que le texte est vivant et incarné.
Oui, pareil, aussi les larmes aux yeux. Avant d'entendre son texte lu, il y a toujours une petite appréhension, parce que quand on écrit, pour moi, la rythmique et la musique et la respiration sont extrêmement importantes, et donc on se demande toujours ce que ce texte et cette musique et cette respiration va devenir dans la bouche de quelqu'un d'autre, dans une autre lecture. Et là, c'était formidable. Merci vraiment beaucoup à vous qui m'avait lu. Et en plus, le choix des extraits, parce que aussi on se dit, ah, peut-être parfois on en dit trop, ou ça, et là, c'était parfait. Merci beaucoup.
Merci Raphaël. Alice Renard, l'histoire de votre manuscrit et l'histoire de votre rencontre avec votre éditrice, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça s'est fait? Vous envoyez des manuscrits? Comment vous avez fait?
À l'origine, avant ce roman, j'ai écrit un recueil de nouvelles que j'avais envoyé par voie postale à des éditeurs. Et on me disait, mais elles sont très bien vos nouvelles, mais ça se vend mal les nouvelles, du coup, désolé. Et j'étais un peu désespérée de ces réponses. Et un jour, il y a une de mes meilleures amies qui me dit, mon père est éditeur, si tu veux, il peut te donner un énième avis. Du coup, je me dis, ah bon, d'accord, je lui envoie. Et cette personne me dit la même chose que les autres, mais rajoute, est-ce que vous n'auriez pas un autre texte? Et j'étais en train de finir mon roman. Et donc c'est un éditeur qui travaillait chez Louise d'Ormesson. Et donc il y a eu cette particularité d'avoir un éditeur avant d'avoir fini le texte.
Bonjour Angélique, c'est votre 9e roman, mais c'est votre 2e aux éditions du Passage. Et quel est votre travail avec votre éditeur?
J'ai eu pas mal d'éditeurs. Et Yann Briand, donc, qui est mon éditeur aujourd'hui au Passage depuis La Belle Lumière, il y a quelque chose de la confiance et du soutien. Et je sais qu'il est derrière moi et qu'il attend. Et c'est pas souvent en fait que ça arrive. Et le travail est un travail de pinaillage que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que pour moi, vraiment, chaque virgule, chaque mot est très important. Et si on enlève un mot de 3 syllabes, en aucun cas, on va pouvoir le remplacer par un mot plus court ou plus long. Ou en tout cas, il faut reconstruire la phrase entière, parfois le paragraphe entier. Et donc, tout ce travail-là... Je le fais aussi avec Yann. Et ça, c'est formidable d'avoir quelqu'un qui est aussi attentif, qui est aussi exigeant, et aussi exigeant que moi. Parfois, on fait des concours pour être plus exigeant l'un que l'autre.
Si on reste juste à l'orée de vos livres, vous avez choisi chacune des exergues. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel a été ce choix ? Alors, pour vous, Angélique, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. Samuel Beckett, innommable. Est-ce que c'est né après ou avant ?
Après. Après, quand je suis tombée sur l'innommable de Beckett, il y a ce moment-là où il y a une sorte de brouillard et il y a aussi une volonté. Il dit qu'il ne peut pas continuer, mais qu'il va continuer, peut-être parce qu'il ne peut pas continuer. Et c'est ce qui arrive à Amy. Et on va la suivre dans ce chemin, puisqu'on la suit pendant 24 heures. Et peut-être plus qu'on la suit, j'espère qu'on est Amy. Pendant que j'écrivais, je la suivais de si près que parfois j'entrais en elle et où elle entrait en moi. Et donc, elle est à un moment de sa vie de 8 ans où peut-être elle ne va pas pouvoir continuer. Et peut-être elle va pouvoir continuer. Et donc Beckett m'a accompagnée là. Ensuite, il y a Emily Dickinson qui dit... comme c'est en anglais, ouais.
J'ai pas envie.
Enfin, elle dit, moi j'oserais pas non plus. Elle dit que l'espoir est cette chose de plume. Et j'aimais bien cette construction un peu enfantine, une chose de plume. Et ça fait écho à la langue d'Eni qui est très imaginaire, qui est très créative et qui est très archaïque. Et c'est ça qui me plaisait de travailler dans cette écriture-là de ce corps de 8 ans. Et puis les plumes et le corps de plumes, on l'a entendu dans l'un des premiers extraits qui a été lu, quand elle comprend, voyant cette scène extrêmement traumatique, elle comprend que tout ce qu'elle a donné à son frère, à Avrom, tous ces noms, tous ces petits mots, tous ces baisers longs, se sont glissés à l'intérieur du corps de son frère, comme un duvet posé les uns sur les autres jusqu'à former le corps d'un oiseau. Et puis plus loin, il y a un autre oiseau. Donc il y a des plumes dans ce livre et j'espère qu'il y a, je crois qu'il y a l'espoir. Ouais.
Pour qui n'a pas étudié la littérature médiévale, pouvez-vous nous le lire et nous expliquer votre choix ?
C'est un extrait de Perceval de Chrétien de Troyes. C'est « Claire et Rian furent eux, en la teste au valet sauvage ». C'est « Claire et Rian étaient les yeux sur le visage du jeune homme sauvage » et ça parle de Perceval. Qui est un personnage qu'aujourd'hui on connaît peut-être grâce à la série Camelot, comme un personnage un peu idiot et grotesque. Mais dans le texte original, c'est surtout un personnage qui a une portée comique, mais parce qu'il maîtrise aucun code. Il a été élevé en huis clos par sa mère, comme Isor au début de l'histoire est élevé en huis clos. Et du coup, Perceval ne connaît pas les usages, il commet maladresse sur maladresse. Et en même temps, il est appelé très fort par un sens de l'aventure. Il a envie de découvrir le monde et il sent qu'il a un destin qui le pousse à traverser vallées et montagnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Isor. Et quand j'ai lu ce texte de Chrétien de Troyes qui a 1000 ans, j'ai vu que Perceval, c'était une version de Isor, ce que Isor aurait pu être s'il était né 1000 ans avant. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que Isor a été à plein d'époques différentes, quelle place ce personnage magique et lunaire a pu avoir dans plein d'autres sociétés.
Notre héroïne, Amy, en fait, on est avec elle, on a 8 ans avec elle. Comment est né ce personnage ? Comment est né, voilà, comment on arrive à se mettre, vous adoptez toujours dans vos livres des points de vue singuliers, hein, puisque dans La Belle Lumière, c'était celui de la maman de Hélène Keller. Et là, on est Amy à 8 ans avec cette violence qui apparaît. Comment ?
Eh bien, pour ce livre-là, j'avais vraiment envie, depuis le début, sans savoir de quoi j'allais parler, j'avais envie d'écrire un corps d'enfant. Il me semble que mon écriture s'y prête, qui est toujours très attentive au corps et aux perceptions et à la distorsion parfois qu'il en résulte. peut-être parce que moi je suis comme ça, peut-être parce que pour moi les couleurs, les sons, les aboiements de petits chiens, tout ça se mélange et forme un magma qui est la base de mon écriture. Et donc voilà, c'était un corps d'enfant et de petite fille. Voilà, j'écris toujours sur les femmes et là c'était une petite fille. Donc je vous laisse ça. Avant de savoir de quoi j'allais parler, et puis au cours de recherche, je suis tombée sur un texte écrit dans les années 50 par une femme d'origine ukrainienne et émigrée, exilée aux États-Unis, qui avait fui les pogroms. Et elle raconte, dans un anglais assez archaïque, bien qu'elle vive depuis très longtemps aux États-Unis, elle raconte sa structure familiale avec cette famille nombreuse et puis ce père qui apprend, qui leur apprend l'apprentissage. Et elle raconte, elle a 13 ans dans l'histoire qu'elle raconte, sa fuite avec sa sœur dans la neige après que ce qu'elle appelle encore 50 ans après, des brigands sont entrés dans sa maison. Et voilà, j'ai lu ce texte et puis j'ai lu ensuite l'histoire de son exil en Angleterre et ce qu'elle a fait de sa vie. Mais cette fuite dans la neige est restée en moi. Et je n'arrivais pas à l'enlever. Et au bout d'un moment, à force de regarder cette fuite dans ma tête, j'ai vu cette petite fille. Elle avait 8 ans et elle n'avait pas encore de nom. Et c'est comme ça que Amy est née, parce qu'elle était déjà dans ma tête et qu'elle ne voulait pas s'en aller. Et donc il fallait faire quelque chose de ce mouvement dans la nuit. Et donc j'ai écrit une première page et puis les autres sont venus de façon extrêmement rapide, comme si tout était prêt, comme si je n'avais plus qu'à la suivre, qu'à la voir, qu'à l'écouter et qu'à respirer avec elle.
Et d'ailleurs, on est vraiment en suspens avec Amy, et avec une collègue, on discutait. Il y a des flashbacks, donc Amy fuit dans la neige, on la voit avec son frère, avec sa sœur, et puis il y a des flashbacks de cette douceur, de cette... Et moi, je trouvais que pour le lecteur, ces moments de douceur, c'était un petit peu comme un petit cocon où on pouvait, pendant la lecture, se mettre et pouvoir respirer. Et ma collègue, Anne, me disait « Ah non, moi, c'était encore plus terrible pour moi, parce qu'en fait, ces instants de douceur, c'est tout ce à quoi elle avait été arrachée. Qu'est-ce que vous avez voulu faire mettre chez le lecteur ?»
Moi, je ne sais pas si j'ai réfléchi à vraiment ça, même si j'écris toujours pour un lecteur. J'écris toujours en pensant avec une adresse au lecteur. Mais c'est évidemment une histoire tragique. Hein, une petite fille de 8 ans qui a vu ce qu'elle a vu, qui ensuite est dans une espèce de trauma, de déni, de dissociation. Et en même temps, c'est aussi l'histoire de la force incroyable humaine qu'on a, qu'elle a. Elle est quand même incroyable. Elle est vraiment incroyable, cette petite fille. Mais je ne voulais pas écrire une histoire affreuse, comme d'habitude, pour écrire quelque chose de noir. Ce qui m'intéresse dans l'ombre, c'est la lumière et c'est la force et c'est l'élan de la vie. Et donc Amy, elle est tout ça, on la suit, et en effet il y a des retours en arrière où on la voit chez elle, où on voit une histoire avec un autre de ses frères. Mais c'est pas seulement le passé qui est doux, c'est aussi ce qu'elle garde et ce qu'elle imagine. Voilà, vous avez lu, on a entendu tout le village de rats qu'elle reconstitue. Elle a cette force enfantine, cette poétique qui fait que elle emporte aussi la lumière, la douceur, elle emporte toute sa famille, elle emporte l'amour incroyable qu'elle a pour sa sœur, et tout ça forme une structure à l'intérieur de son corps qui vont l'aider à avancer.
Vous aussi, il y a une espèce de respiration de suspense, parce qu'au début, Isor, on ne la voit pas par ses propres yeux, on la voit par les yeux de son père, de sa mère. C'était décidé dès le début. Vous avez imaginé Isor et le regard qu'on pouvait porter sur elle.
Oui, il y a plusieurs moments où on dit de bizarre qu'elle est trop vaste et qu'elle est plusieurs. Et effectivement, Isor, sa bonne petite fille, elle est aussi une sorte de géante et un personnage qui est presque infini, qui a énormément de facettes. Et du coup, comment faire le portrait d'une personne qui est aussi grande, qui ne rentre pas dans le cadre ? Est-ce qu'il ne faut pas faire plusieurs portraits, faire plein de flashs photographiques différents ? Où on verrait peut-être sur une photo qu'une main parce qu'elle va trop vite et qu'on n'a pas eu le temps de prendre la photo, et sur la photo d'après, juste un pied et après juste des cheveux. Et en fait, en mettant côte à côte toutes ces images parsévères, tous ces bouts de puzzle, qu'on peut arriver à voir Isor en multipliant les points de vue, les regards. J'ai essayé d'inventer une manière de faire, une nouvelle manière de faire un portrait. Qui soit éclaté et du coup qui puisse contenir l'infini.
Et en même temps, vous nous offrez dans ce portrait éclaté par les parents des belles figures de parents, de pères et de mères, d'ailleurs qui ont parlé à énormément de lecteurs, qui s'interrogent quand ils ont un enfant différent. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'il y a toute l'ambiguïté, il y a toute la subtilité de la maman qui... au début est très proche de sa fille, puis sa fille lui échappe. Et ce père qui, on l'a entendu, est parfois en colère, finalement, il va trouver un chemin pour aller jusqu'à sa fille.
Au début, il y a cette grande tragédie qu'il y a de l'amour, mais qui ne circule pas. Il n'arrive pas à aller d'un cœur à l'autre. L'amour des parents n'arrive pas à aller jusqu'à leur fille, et l'amour de Isor n'arrive pas à aller jusqu'aux parents. Comme si ça ne circulait pas, que c'était obstrué, qu'il y avait des choses qui empêchaient cette communication d'amour entre eux. Et je pense que c'est des cas de figure qui arrivent très fréquemment. On aime quelqu'un, mais on ne sait pas comment l'atteindre, on ne sait pas comment l'aider, et on ne se comprend pas. Et les deux parents, ils sont en demande, ils ont des attentes par rapport à leur fille. La mère, elle a envie de la comprendre, mais elle a tellement envie de la comprendre qu'elle n'a plus accès à elle parce que ça pèse trop fort sur Isor. Et le père, il aurait envie qu'elle soit autrement. Et du coup, il n'y a pas de place pour des moments précisément sans attente. Et Lucien, ça va être celui qui va pouvoir rencontrer Isor vraiment parce que il n'attend rien d'elle, et le métier de photographe m'est venu pour ce personnage, Lucien, parce que la manière dont je me figure ce métier, c'est d'acquiescer au réel. Il y a une citation de Henri Cartier-Bresson, qui est un photographe que j'aime beaucoup, qui dit « Taking a picture is like saying yes, yes, yes ». Prendre une photo, c'est comme dire « oui, oui, oui ». C'est juste acquiescer à ce qui se passe, dire « ça, c'est la réalité, d'accord, d'accord, d'accord ». Et c'est pour ça qu'il est capable d'accueillir Isor, c'est parce qu'il l'apprend comme elle est.
Vous aussi, j'ai dit que vous nous offrez des très beaux portraits de parents. Un père qui apparaît de suite aimant, et pour lui, c'est pas le système. Mais la mère, elle, est de plus ambiguë. On pense qu'elle n'est pas aimante. Et pourtant, elle va sauver dans un mouvement magnifique ses filles.
Oui, c'est une mère qui est une mère figée. Sur son fauteuil en bois ciré autour de laquelle on tourne et qui n'a de rôle, semble-t-il, dans la famille qu'un rôle de nourrissement et un rôle aussi de création des bébés. Donc elle est en couvaison où ensuite elle nourrit les enfants. On pourrait peut-être imaginer que c'est une mère dépressive peut-être, mais c'est une présence, je dirais, comme un gros oiseau qui est à l'intérieur de la maison, autour de laquelle on vit. Et puis, au moment fatidique, donc où les brigands sont présents, en effet, elle se lève, on entend que le bébé lui est arraché du sein, et elle va, en effet, pour la première fois, non pas qu'elle ne parle jamais, mais elle ne parle presque jamais, elle va dire quelque chose, faire quelque chose qui permettra à ses filles de s'enfuir. Et ça, c'est aussi un geste, et c'est aussi peut-être, on va retrouver la belle lumière ou d'autres de mes textes, où le rôle des parents, c'est de laisser partir les enfants. C'est ce qu'elle fait.
C'est peut-être ce qui arrive aux parents d'Isor, en fait.
Oui, il y a, au bout d'un moment, les parents arrivent à sortir, à enlever leurs œillères. Et la mère, elle dit, je comprends que c'est en n'allant pas chercher ma fille qui est fuguée que je vais enfin pouvoir la rencontrer. Et la manière de d'être avec elle, c'est d'être loin d'elle. C'est elle qui va revenir. Et c'est un déclic très fort de comprendre que c'est pas en la poursuivant de cet amour immense qu'elle va enfin pouvoir être avec elle. Et il y a cette phrase aussi des parents les deux parents qui disent Isor est en train de nous apprendre une nouvelle manière d'être une famille. Ce qui est une phrase qui a été prononcée que j'ai dite à mes parents le jour où j'ai décidé de plus habiter chez eux. Je leur ai dit, je pense qu'on s'aimera mieux si on ne vit plus ensemble. Et c'est très très dur pour eux de comprendre ça, qu'on peut s'aimer mieux si on n'est plus ensemble. Et que maintenant il fallait inventer un nouveau modèle de relation, autre que les petits-enfants qu'on nourrit, qu'on habille, qu'on couvre d'attention, et que maintenant c'est des relations d'adulte à adulte qui sont différentes et que c'est... Un autre système relationnel qu'il faut inventer, qu'il faut adapter à chacun et qui est aussi un ouvrage créatif comme d'écrire un livre. On peut mettre sa créativité pour inventer une nouvelle relation familiale et c'est ça que Isor essaie de faire.
Peut-être que aimer ses enfants, c'est aussi accepter de ne pas comprendre. C'est dur d'accepter de ne pas comprendre. Moi, j'aime bien ne pas comprendre.
Et d'ailleurs, dans votre livre, tout n'est pas dit. Et c'est peut-être pas plus mal parce que, en fait, ça, je trouve que ça met. Voilà, on va pas aller au-delà, on va jamais dans l'horreur. On est dans sans doute l'indicible, mais qui n'est pas écrit ou écrit d'une façon tellement poétique. Et voire même, on s'était demandé si vous n'aviez pas choisi la formule du conte pour dire cette histoire terrible.
Je n'ai pas de conte et finalement, peut-être que le conte n'est pas ce que je cherchais à faire, mais oui, c'est aussi pour cette raison, sans doute, qu'il y a un flou sur l'endroit où ça se passe, sur l'époque à laquelle ça se passe. Il y a aussi le fait qu'à aucun moment le mot juif n'est prononcé, parce que Ellie, peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle est juive, elle s'en fiche, elle est. Comme quand on est enfant, on pense que sa famille est le modèle de toutes les familles. Et donc, ça ne l'intéresse pas de savoir ça. Et par l'écriture, par la littérature, on peut dire des choses extrêmement difficiles en y mettant des silences et des gouffres aussi, et de la poétique qui permet au lecteur de trouver sa place. Je sais que le lecteur est dit. Il écrit avec moi aussi le livre en le lisant, que chaque lecteur aura une lecture différente. Et je lui fais suffisamment confiance pour que dans ses interstices, au moment difficile du livre, il sache soit se retirer ou entrer avec moi et écrire avec moi.
Je sais que parmi les lecteurs, il y en avait qui avaient des questions. Voilà, et puis ils seraient frustrés si on n'avait pas le temps de.
Oui, c'est pour Alice. Bon, j'en ai trois. Je les lis en même temps, et puis vous choisirez. Je ne sais pas, je ne suis pas montée.
m'empêcher de penser que Alice Renard, c'est un pseudo. Non ? C'est fou, ça ! Parce que je pensais à Alice au Pays des Merveilles, et dans le livre, vous parlez du renard du Petit Prince et ce thème d'apprivoiser est très fort. Ah, mais c'est magnifique, je trouvais ça tellement beau, ce nom.
Non, mais pendant longtemps, quand on me disait « Ah, Alice au Pays des Merveilles », je me disais « Ha, 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 ha !» On me l'a déjà faite. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'ai l'impression que mon ouvrage d'écriture, c'est d'apporter la merveille et d'arriver à désigner et cerner la merveille dans la vie réelle. Donc j'ai réussi à comprendre la filiation de mon prénom.
Ouais, parce qu'il y a du merveilleux dans ce livre. Et alors, une autre chose, c'est que moi, je suis fascinée par les lettres de la fin. Et ce que je trouve génial, c'est que cet enfant qui rentre pas dans les clous, elle devient libre, elle respire et elle s'autorise à pas rentrer dans les clous de la syntaxe. Et je pouvais pas m'empêcher d'imaginer que celle qui écrivait, ça pouvait être jubilatoire de faire ça, quoi. Et pour la lectrice aussi, hein. Et il y a même des mots inventés, pas dans ce qu'on a lu, mais à un moment, il y a précieux, cautionneux. Enfin, moi, j'ai adoré tout ça. C'était un plaisir de lecture, de sortir des clous. Et c'est une liberté de l'écriture. Enfin, voilà, alors, je sais pas. Je me dis, mais en plus, c'était prendre des sacrés risques, quoi, de faire ça. Et voilà. Moi, ça m'a fascinée. Et comment c'est venu, comment...
Merci beaucoup déjà. Ce que j'aime beaucoup dans la poésie, c'est la manière dont ça casse la langue. Par exemple, les expressions toutes faites qui sont brisées. Et une fois qu'on les brise, c'est comme s'il y avait une énergie qui était enclose à l'intérieur, qui est libérée. Ça, c'est une thématique qui devient très forte dans ma vie, notamment, par exemple, aussi de briser des tabous. Je visualise le tabou comme une digue, comme un barrage. Et quand on le brise, il y a tellement d'énergie qui était enclos derrière que ça fait un déferlement. Et pour moi, la poésie, c'est ça, c'est briser une digue et pouvoir profiter de toute l'énergie accumulée qui était derrière. Et là, dès qu'on se met à briser la langue, il y a toute cette vibration qui ne pouvait pas prendre place dans l'espace figé de la grammaire, qui d'un coup a une place, et qui a été tellement frustré de ne pas pouvoir s'exprimer, qu'il se met à jaillir. Et c'est ça qui m'intéresse énormément.
Ouais. Et enfin, moi, comme lectrice, je l'ai énormément senti. Et puis la dernière chose, parce qu'en fait, tout est hyper cohérent dans ce livre, finalement. Même s'il y a de la magie, hein. Mais c'est l'histoire de Lille, c'est aussi une idée que je trouve vachement bien. Et puis vous citez les films là, de Bergman, Nesvarda et tout. Bon, voilà,